avons essayé de préciser ce premier moment sur la réflexion du « je suis » pour découvrir ce que représente l'autonomie radicale que nous expérimentons dans notre « je suis ». Autonomie, c'est-à-dire indépendance. Nous ne sommes pas liés aux autres, étant donné que notre âme, notre substance, source de notre être, nous permet d'être distincts des autres et indépendants d'eux. Même vis-à-vis de nos propres parents, où il y a une dépendance selon la vie qui demeure, elle a été, et d'une certaine manière elle demeure, mais indépendance dans l'ordre de l'être, autonomie dans l'ordre de l'être. Cette autonomie, donc, nous permet de découvrir, de goûter, dans le sens expérience, de notre être, notre étant, au sens heideggerien. Mais voyez, c'est là où on voit très bien l'erreur de Heidegger. C'est peut-être même là qu'on le voit le mieux. Parce que justement, dans cette expérience du « je suis » au point de vue de l'autonomie, on voit l'être dans l'étang. Si je ne regarde que l'étang, je suis justement dans la dépendance. C'est en découvrant le « je suis » dans l'étang, dans la manière dont j'existe, que je découvre mon autonomie, mon indépendance radicale. Je suis source d'être. Et en même temps, je l'expérimente. C'est le point de vue si particulier de cette expérience du je suis dans son autonomie. Parce que c'est vraiment l'être. Et l'être seul qui permet d'avoir cette autonomie métaphysique. Et cette autonomie métaphysique, elle est radicale. Elle est sui generis. C'est-à-dire qu'elle est propre à cette expérience que je fais. Et personne ne peut me la prendre. Par rapport à tout mon milieu, comment il y a une expérience radicale qui, je ne dis pas qui m'isole, parce que l'autonomie ne met pas nécessairement dans la solitude. Elle peut permettre une certaine solitude, mais la solitude c'est autre chose que l'autonomie. La solitude implique que volontairement on se sépare des autres. Tandis que l'autonomie, c'est voir cette possibilité de séparation. Je peux être seul. Je peux vivre seul. D'une certaine manière. Parce qu'il faut bien que je me nourrisse. Mais je peux vivre seul. Donc, il faut tout le temps revenir à cette autonomie, en comprenant que cette autonomie, je l'expérimente et je l'aime. C'est l'amour foncier qu'on a de soi. On est quelqu'un à liquide. Pour Thomas d'Aquin, Aliquid, implique une séparation des autres dans un acte propre. Eh bien, c'est exactement ça. Séparation des autres dans quelque chose qui est en acte en moi et que les autres ne peuvent pas atteindre. Il y a une certaine, vous voyez, et ce sera ça la solitude, que les autres ne peuvent pas atteindre. Quand les autres peuvent pénétrer chez moi, je ne suis plus solitaire. J'ai beau fermer mes portes, je ne suis pas solitaire. Les autres peuvent entrer. Tandis que quand les autres ne peuvent pas entrer, je suis solitaire. Je peux découvrir cette solitude et demeurer dans cette solitude en étant séparé. Et c'est cela le propre de l'autonomie. Je ne peux pas m'arrêter à cela. C'est très vrai que c'est premier et fondamental. Et voyez, alors c'est là où il faudrait tout de suite comparer avec ce que je vous avais dit, ce psychologue Charles Audier, qui considère que la première dimension de la personne, c'est le moi dans son autonomie. Le moi dans son autonomie, c'est très vrai, mais ce n'est pas suffisant. Charles Audier demeure dans l'étang. C'est la découverte du « je suis dans l'étang » qui permet justement de découvrir quelque chose d'original et d'unique dans l'ordre de l'être. Puisque l'autonomie n'est pas dans le point de vue du comment, dans le point de vue de l'étant, la réalisation concrète. Là, je suis forcément dépendant de mon milieu, dans mon conditionnement. Tandis que dans mon être, je touche, j'atteins par mon intelligence, et non pas par le sentiment. Par l'intelligence, j'atteins quelque chose qui résiste à toutes les emprises de ceux qui sont dans mon milieu, qui sont autour de moi. C'est la profondeur de la personne humaine d'avoir cette autonomie dans l'être. Et on pourra, alors ça pourrait, on peut noter, je ne le dis pas maintenant, parce que ce n'est pas à ce moment-là que je dois le développer, mais c'est là où je découvrirai que seul le Créateur, quand je l'ai découvert, fonde cette autonomie, seul il y pénètre, sans la détruire. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus particulier dans l'acte créateur de Dieu. C'est que il pénètre l'autonomie de la personne humaine qui est la créature la plus parfaite. Il pénètre au plus intime de lui. Il ne détruit pas son autonomie, au contraire, il la fonde. Quand je découvre dans la personne religieuse, dans la personne créée par Dieu, je découvre une dernière autonomie, une autonomie différente, parce qu'elle n'est plus fondée seulement sur l'expérience que j'ai du « je suis », mais elle est fondée sur l'acte créateur. Et que cet acte créateur est le seul acte autre que moi qui qui peut pénétrer dans mon autonomie au plus intime et plus intimement même que moi, puisqu'il en est la source, et qui ne la détruit pas, au contraire, la fonde. Mais Dieu est comme garant de mon autonomie, comme créateur. C'est lui qui la veut. C'est pour ça que cette autonomie a quelque chose de sacré au point de vue religieux, puisque je reconnais que au plus intime de mon âme, je suis complètement indépendant de tous ceux qui sont autour de moi, qui vivent avec moi, qui vivent dans le monde avec moi. Je suis complètement indépendant. Et cette indépendance a quelque chose de sacré, puisqu'elle vient de Dieu, directement et immédiatement. C'est important de comprendre que grâce à cette découverte de l'autonomie du « je suis », je puis, dans la mesure où ma recherche philosophique s'achève dans la découverte de l'existence d'un être premier, créateur, je puis alors à ce moment-là découvrir ce qu'il y a de premier dans toute attitude religieuse. Ce qu'il y a de premier dans toute attitude religieuse, c'est de reconnaître que je suis unique pour Dieu et que mon originalité la plus radicale, c'est mon exister, je suis. Dans mon « je suis », je ne dépends que de Dieu et de moi. Je me reconnais dans mon univers propre. Oui. C'est là où on voit les limites terribles, oui, d'une philosophie qui ne dépasse pas la phénoménologie. Être dans le monde, comme c'était la dernière expérience qu'on a. On voit que, au fond, je ne suis pas dans le monde. Je vis au milieu du monde, mais j'ai en moi quelque chose qui n'est pas dans le monde. Quand je suis en moi, je suis au-delà du monde. Je suis seul. Oui, celui qui est dans le monde n'est pas seul, puisqu'il est dans le monde, et le monde est son lieu. Le monde ne peut pas être mon lieu. Mon être dépasse le monde. Mon être me met indépendant du monde. Ce n'est pas le monde qui est source de mon être. Ce n'est pas mes parents qui sont source de mon être. Mon être vient d'autre part, d'un autre, qui n'est pas le monde, qui n'est pas mes parents. Et je goûte. Vous voyez, je dis bien goûter dans le sens expérimental, affectif. Cette royale indépendance de mon je suis. Royale indépendance parce qu'elle est radicale. Et que je suis responsable par le fait même de ce que je suis. Puisque personne de toutes les réalités que j'expérimente ne sont source et cause de mon être. Et je découvre à ce moment-là que, en découvrant l'existence d'un être premier, je découvre cette source. Mais vous voyez, distinguer. distinguons bien ces deux moments dans l'autonomie. Ou, si vous voulez, distinguons bien ces trois moments de l'autonomie. L'autonomie psychologique, Charles Audier. Le sentiment du moi. Ça va pas très loin. La découverte du je suis. L'autonomie dans mon être. Et le fondement et la source de mon autonomie dans la découverte du Créateur. Et chaque fois, je découvre quelque chose de plus radical. Et au fond, je pourrais affirmer que seul celui qui reconnaît l'existence du Dieu créateur découvre l'ultime autonomie qu'il a dans la dépendance radicale à l'égard de l'acte créateur. Puisque c'est l'acte créateur qui fonde cette autonomie et qui montre que cette autonomie est fondée en Dieu. C'est pour ça qu'elle est sacrée. C'est l'autonomie religieuse qui peut se dégrader dans un sentiment de fanatisme. Ça, c'est sûr. Ça va tellement loin, cette autonomie, qu'elle peut très facilement se dégrader. Et en ne voulant recevoir aucun conseil de n'importe qui. Dans le fanatisme, il y a de l'orgueil. Hein. C'est pour ça que le fanatisme est quelque chose de toujours odieux et terrible. Parce qu'on se sert de Dieu pour couper la tête du voisin. On est envoyé de Dieu pour couper la tête du voisin. Parce que le voisin, c'est pas moi. Et ne me reconnaît pas dans mon autonomie suffisamment. Alors, je prends Dieu comme garant. Ça, je crois que c'est important de saisir le caractère propre de cette autonomie qui peut très bien se dégrader. Qui n'est plus alors la véritable autonomie dans l'ordre de l'être. Le fanatisme n'est pas dans l'ordre de l'être. Le fanatisme est dans l'ordre de la volonté. Et donc d'un amour de soi qui est de se considérer comme indispensable à la cause de Dieu. C'est pour ça qu'on prend Dieu comme garant. Qu'on se fait le lieutenant de Dieu. Un lieutenant qui se bat. Vous voyez, je dis tout ça, c'est pour comprendre que cette découverte de l'autonomie en nous-mêmes, dans le je suis, est très importante. Parce que elle est un moment. Elle est un moment, elle n'est pas quelque chose d'ultime qui attend d'aller plus loin pour l'autonomie religieuse. Et dans l'autonomie religieuse, je vois que mon autonomie est dépendante de l'acte créateur de Dieu, donc de sa sagesse. Et donc le fanatisme est une attitude qui n'est pas métaphysique, qui n'est pas philosophique, qui est un égocentrisme forcené, puisque on met Dieu relatif à mon égocentrisme. Il faut avoir horreur du fanatisme religieux. Il faut le dépister. Il faut en avoir horreur. Parce que c'est vraiment chose qui a la place de faire de nous des témoins de la vérité. Fais qu'on ramène tout à soi. L'autonomie est au niveau de l'être. J'ai découvert que la finalité de l'être, c'est l'être en acte. Que l'être ne peut pas se comprendre parfaitement au niveau de la substance. La substance me donne le sens de l'immanence de l'être. Il n'y a pas d'autonomie sans immanence. Et donc, la découverte de la substance est nécessaire pour la découverte de mon autonomie. Et c'est par là que je la découvre. Mais je sais, avec toute l'analyse philosophique et métaphysique que j'ai faite, je sais que la découverte de la substance est un aspect de l'être. La substance, c'est bien ce qui est premier dans l'ordre de la détermination, dans l'ordre de la forme. Ce qui est premier en moi, dans l'ordre de la forme des déterminations, c'est mon âme, source de toutes les déterminations qui sont en moi. Et étant la détermination radicale, je vais donc, cette découverte de l'autonomie, découvrir ce qui, en moi, dans mon je suis, me permet de découvrir les grandes dimensions de l'être en acte. Et cette première dimension de mon esprit, mais au niveau de mon être. C'est ça qui est toujours très important à voir. Et de découvrir cette dimension d'une recherche de la vérité indispensable à la découverte personne. Vous voyez que nous devons, au niveau de l'être, découvrir l'esprit en moi. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut comprendre que l'expérience de mon je suis en présence, dans le langage heideggerien, d'un étang. Mais l'être est dans cet étang. Je fais l'expérience du comment de mon être je suis. Mon être est dans mon je suis. Je fais l'expérience de cette réalisation concrète de l'être. Mais ce n'est pas la réalisation concrète que je regarde en premier lieu. C'est l'être dans cette réalisation concrète. Et c'est ça qui me permet de parler d'une personne. Et je vois tout de suite, parce qu'il s'agit de découvrir la personne humaine dans mon je suis, de découvrir cet autre aspect, cette autre dimension. Mon être est un être spirituel. Dans mon âme. Et puisque c'est un être spirituel, pourra jamais être une personne parfaite. Il sera handicapé dans sa personne. Il sera une vraie personne, mais non parfaitement développée. C'est comme un enfant. Un petit enfant est une personne métaphysiquement. l'ai développé en philosophie du vivant. Tu vois, je l'ai analysé en philosophie du vivant. Et je l'ai exercé en métaphysique. C'est en découvrant l'être que je découvre mon intelligence. Je ne découvre pas mon intelligence dans ce qu'elle a d'unique et d'original si je n'ai pas découvert l'être. Tant que je reste au niveau de la forme, au niveau des quiddités, je découvre ma raison et pas mon intelligence. Or, il y a une question très grave. Est-ce que je découvre le développement de ma personne au niveau de la raison? Ou est-ce que je découvre le développement de ma personne qu'au niveau de l'intelligence? La raison est l'analogue dans le développement de ma personne à l'étant au niveau de l'être. Là, je peux faire une analogie. C'est le mode particulier humain de mon exister quand je parle de mon étant. C'est le mode particulier du développement de l'esprit, de l'intelligence quand je parle de la raison. La raison demeure un niveau du devenir, un niveau quantitatif. Le développement d'intelligence n'est pas le développement de ma personne. Ceci reste vrai quand je n'ai pas découvert l'intelligence comme intelligence qui atteint l'être et que je suis resté au niveau rationnel. La raison comme raison développée surtout en logique, en science, ne fait pas partie directement de la structure de ma personne. Il y a des êtres très développés du côté de la logique et qui ne sont pas du tout des personnes. voyez qu'à ce moment-là, mon intelligence, quand elle découvre quelque chose de réel dans l'homme, de profond dans l'homme, l'intelligence atteint sa perfection. Elle atteint la vérité sur l'homme. Et atteindre la vérité sur l'homme, c'est atteindre sa perfection. Je ne suis parfait que quand je connais parfaitement l'homme. L'homme, moi. Et que je suis en conformité avec l'homme en tant qu'il existe. En tant qu'il est. Ce n'est pas du tout un repliement sur soi. Sur mon vécu. Puisque c'est atteindre en moi ce qui est. Si je me replie sur moi-même pour découvrir si je suis en harmonie avec tout ce que j'ai connu avant, c'est très bien. Ça me permet de me développer harmonieusement. Mais ça ne me permet pas de découvrir en moi ce qu'il y a de propre au niveau personne. Et ça, c'est pas commode à bien comprendre. Mais c'est très important pour saisir que cette recherche de la vérité au niveau de l'intelligence est essentielle au développement de ma personne. Ma personne ne peut se développer que dans la recherche de la vérité. Et que la structure profonde du développement de ma personne se fait dans cette recherche de la vérité. Pourquoi ? Parce que mon intelligence est capable d'atteindre ce qui est. Si mon intelligence n'est pas capable d'atteindre ce qui est, mon intelligence ne serait pas dans la recherche de la vérité, ce qui structure ma personne. Vous découvrir ça. C'est capital. Autrement, vous direz tout le temps, mais pas ceci intellectuel, ça. Pas du tout. L'intellectuel, c'est le rationnel. L'intelligence n'est pas. Elle est faite pour la vérité. Donc, elle est faite pour être en conformité avec la réalité. Et la réalité dépasse toujours le point de vue rationnel. Le point de vue rationnel, c'est de l'ordre de l'intentionnalité. Et c'est uniquement de l'ordre de l'intentionnalité. Et donc l'homme est plus que la raison et que le développement de la raison. Et donc si l'homme est plus que le développement de la raison ne peut pas être un élément essentiel à ma personne. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ça qui fait le développement essentiel de ma personne. Vous voyez comme c'est important là, parce que vous ne pouvez pas dire que le développement des mathématiques est un développement essentiel à la personne humaine. C'est pas commode à affirmer dans notre monde d'aujourd'hui ça, parce que ça fait rugir les mathématiciens. Pourtant vrai, parce que les mathématiques n'atteignent pas la vérité au niveau profond. Les mathématiques forment un système, un tout, où tout peut être en harmonie. C'est fondé dans la réalité, mais formellement c'est dans l'intelligence. Le monde n'est pas formellement mathématique. Il est fondamentalement quantitatif. Et là, on peut dire que les mathématiques se fondent dans notre univers. Mais les mathématiques ne donnent pas l'aspect formel du développement de mon intelligence. Donc, je ne peux pas dire que le développement des mathématiques est essentiel au développement de mon intelligence. Tandis que je peux. peut dire que la recherche de la vérité de mon esprit est essentielle au développement de ma personne. Oui, c'est bien cela. Parce que ça me semble capital. Oui. Ce qu'on appelle aujourd'hui les intellectuels, ce n'est pas cela qui forme des personnes humaines. Hélas. Ce sont des intellectuels, des technocrates, ce sont des matheux. C'est très bien, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas la personne humaine. Alors il faut essayer de saisir ça. Puisque ce que je cherche, c'est les dimensions de ma personne humaine, les dimensions essentielles de ce comment de l'être le plus parfait que j'expérimente. Et je reviens toujours à ça, dans mon je suis. Comment dans mon je suis s'intègre la recherche de la vérité? Point de vue de la recherche de la vie. résultats ne sont pas fameux. L'intelligence transformée par la foi respecte cette recherche intellectuelle en disant, c'est pas pour moi ça. Je suis pas fait pour ça, mais je respecte. Ce qui est terrible, c'est quand on le nie. Celui qui nie la recherche de la vérité ne pourra jamais être une personne parfaite. Humainement parlant, celui qui nie cela, qui dit que l'intelligence est faite pour ce développement logique, et que c'est ce développement logique qui est essentiel. Il y a des gens très bien qui disent ça. Essentiel en lui, cette capacité qu'il a de découvrir. réalité. Il est une réalité. Et par son intelligence, il est capable de comprendre cela et donc de se dépasser. Et par la métaphysique, il se dépasse. Et donc, il découvre que l'intelligence a en elle une vitalité qui touche l'être. Et parce que cette vitalité touche l'être, la vitalité de l'intelligence fait partie essentielle de sa personne. Si je comprends que la personne humaine est au niveau du « je suis », au niveau métaphysique du « je suis », de situer exactement ce qui, dans le développement de l'intelligence, peut structurer la personne humaine. Ce n'est pas n'importe quel développement de l'intelligence. Ce n'est pas le développement de la raison et de la logique. Cela, c'est très bien, mais c'est secondaire. Ce qui structure la personne humaine, c'est une intelligence qui rejoint l'être. Et qui, en rejoignant l'être, cherche la vérité. Et seule une intelligence qui rejoint l'être et qui a atteint la vérité est une intelligence parfaite dans sa recherche. Et donc, structure la personne humaine. Exactement, justement, qu'est-ce que c'est que la vérité pour bien comprendre cela. Parce que si on ne voit pas exactement ce qu'est la vérité, on ne comprend pas cela. Et je crois ça très important. Et ça fait comprendre, vous voyez, alors ça c'est en nota bene, pourquoi l'Église est si tenace dans cette recherche de la vérité. Alors les autres diront, l'Église garde les vieux meubles. Elle a un grenier avec tous les vieux meubles du Moyen-Âge. Et l'Église n'a aucun seul souci, c'est d'épousseter tous ces vieux meubles tous les jours. Et donc elle stationne, elle n'est pas dans le progrès. C'est la grosse attaque sur l'Église. Et c'est terrible. Est-ce que c'est pas ça? Si l'Église maintient une métaphysique, c'est parce que l'Église sait qu'au-delà de la raison, il y a l'intelligence, et que l'intelligence ne peut se développer qu'en saisissant ce qui est comme tel. Mais c'est toujours le point de vue de l'analogie.